en direct du couloir de la mort, Mumia Abu Jamal. Au bord du précipice, entre la vie et la mort. Pour qu'il y ait équivalence, il faudrait que la peine de mort châtiât un criminel qui aurait averti sa victime de l'époque où il lui donnerait une mort horrible et qui, à partir de cet instant, l'aurait séquestré à merci pendant des mois. Un tel monstre ne se rencontre pas dans le privé. Albert Camus, Réflexion sur la guillotine. On rentre. C'est l'appel pour la dernière récréation de la journée.
Les condamnés à mort. Quatrième, cinquième et sixième étage, on sort dans la cour.
Mugit le gardien corpulent, dont l'accent rural dépayse l'oreille urbaine. C'est l'ouverture des cellules, une par une, pour l'expédition quotidienne vers la cage. Chaque homme est fouillé par les gardiens armés de matraques, puis passe au détecteur de métaux. Une fois les prisonniers mis en cage, le ciel de l'été se met à gronder. Ses nuages foncés enflent, gros de tonnerre et de pluie. Un gardien, chemise blanche et lunettes, tourne son visage pâle vers le ciel pour sonder l'imminence de l'orage. Les grondements se font plus forts et des gouttes de pluie glissent vers la terre, éclaboussant l'acier, la brique et les hommes.
« On rentre !»
crie l'homme en chemise blanche. Et son hurlement provoque des murmures de ressentiment parmi les hommes.
On rentre. Bah merde alors, on vient juste d'arriver.
Les gardiens se font plus cajoleurs que menaçants.
Allez les gars, on rentre, on rentre. Vous savez bien qu'on peut pas vous laisser là quand il y a du tonnerre et des éclairs. Ah bon? Et pourquoi? Vous avez peur qu'on se fasse électrocuter?
Demande un prisonnier.
C'est vraiment con,
ajoute un autre.
Ils ont peur que si on se fait électrocuter par les éclairs, ils auront plus de boulot et ils pourront plus se faire payer.
Quelques gros rires et l'ambiance sur le chemin du retour s'alourdit. Bien qu'elle dure normalement 2 heures, la promenade dans la cour se termine aujourd'hui en 10 minutes à peine, de peur que les condamnés à mort périssent non plus de la main de l'État, mais de celle du destin. Pour quelques 2400 personnes enfermées dans des prisons fédérales et d'État, la vie est différente de celle qui prévaut dans toute autre institution. Ce sont les condamnés de l'Amérique, ceux qui portent une flétrissure bien pire que celle de prisonniers. Les pensionnaires du couloir de la mort. Des hommes et des femmes qui marchent sur le fil du rasoir entre un semblant de vie et une mort certaine dans 34 États ou sous l'autorité fédérale. Le plus grand couloir de la mort se trouve au Texas. 324 personnes, 120 Africains-Américains, 144 Blancs, 52 Hispaniques, 4 Amérindiens, 4 Américains d'origine asiatique. Les plus petits sont ceux du Connecticut, 2 Blancs, du Nouveau-Mexique, 1 Amérindien, 1 Blanc, et du Wyoming, 2 Blancs. Dans le couloir de la mort, le monde est plus noir que partout ailleurs. Les Africains-Américains représentent seulement 11% de la population nationale, mais constituent environ 40% de la population du couloir. Parmi eux se trouve l'auteur de ces lignes. Domination et discipline. Je vous écris de la prison d'État de Huntington, dans le centre de la Pennsylvanie, le plus grand couloir de la mort de l'État. Je suis l'une des 123 personnes qui attendent la mort. Je vis dans ce royaume stérile de la mort depuis l'été 1983. Il y a plusieurs années maintenant, on m'a imposé le statut de détenu disciplinaire pour avoir voulu respecter ma foi, les enseignements de John Africa, et en particulier pour avoir refusé de me faire couper les cheveux. Pour cette raison, je n'ai plus le droit de communiquer avec ma famille par téléphone. À l'occasion, j'ai été enchaîné. Ici, la vie oscille entre le banal et le bizarre. À la différence d'autres prisonniers, ceux du couloir de la mort ne font pas que de la tôle. Au bout du tunnel, impossible de saisir la liberté. Au bout du tunnel, c'est l'extinction. Pour beaucoup, donc, il n'y a aucun espoir. Comme dans toute organisation de masse et quasi-militaire, la vie dans le couloir de la mort est régie par un règlement très strict. Et comme dans tout régime imposé à la personne humaine, il y a résistance, mais beaucoup moins qu'on pourrait le croire. En général, les prisonniers du couloir de la mort sont ceux qui se comportent le mieux, qui dérangent le moins. Il est vrai aussi que nous n'avons guère le choix, puisque nombre d'unités fonctionnent selon le système 22 plus 2. 22 heures d'enfermement en cellule et 2 heures de récréation hors cellule. La récréation en plein air a lieu dans une cage entourée de barbelés coupants. C'est le parc à chiens. Tous les couloirs de la mort ont un même but. Le stockage des êtres humains dans un monde austère où les prisonniers sont traités comme des corps à maintenir en vie pour être tués. Le régime du couloir de la mort de Pennsylvanie est un des plus sévères qui soit, rivalisant avec la tristement célèbre unité de Saint-Quentin en termes de durée et d'intensité des restrictions. Quelques États autorisent 4, 6 ou même 8 heures de récréation hors de la cellule, un emploi ou même un accès à des programmes éducatifs. Pas ici. Ici, on n'a que peu ou pas de vie psychologique. Ici, beaucoup ne peuvent échapper au spectre omniprésent de la mort que par les distractions communes. Télévision, radio, activités sportives. Les téléviseurs sont autorisés, mais pas les machines à écrire. On peut dépenser librement son énergie devant le petit écran, mais un outil essentiel pour se débrouiller dans le maquis juridique est considéré comme un risque du point de vue de la sécurité. Un prisonnier qui s'intéressait plus à sa vie qu'aux distractions, a revendiqué avec force auprès des autorités la permission d'acheter une machine à écrire non métallique, à pile. De façon prévisible, elles ont refusé sa demande pour raison de sécurité. « Mais alors, dit le prisonnier, un morceau de verre de 30 cm, c'est pas un risque du point de vue de la sécurité ? Et où tu vas trouver ça ?» lui demanda un officier de la prison. « Eh ben sur ma télé !» Demande de machine à écrire, refusée. La télévision est plus qu'un puissant divertissement qui détourne votre attention d'un sort terrible. C'est une matraque psychique utilisée pour menacer ceux qui osent résister à l'isolement déshumanisant de la vie dans le couloir. Quand on est jugé coupable d'une infraction institutionnelle, plus de télé. Après des mois, voire des années de visites sans contact physique, peu d'appels téléphoniques et une communication toujours plus rare avec sa famille et les autres, de nombreux prisonniers utilisent la télé comme un cordon ombilical, leur seul lien psychologique avec le monde qu'ils ont perdu. Ils en dépendent. À la façon des gens isolés qui se tournent vers la télé pour avoir une illusion de compagnie, et ils ont peur d'en être séparés. Pour beaucoup, la perte de la télé est un prix trop élevé à payer pour une manifestation de résistance. Humiliation. Les visites sont un exercice d'humiliation. En Pennsylvanie, comme dans beaucoup d'autres États où la peine de mort existe, la règle veut que les visites se fassent sans contact physique. Ce n'est pas seulement une règle de sécurité. C'est une politique qui a pour objectif de couper tout lien affectif en niant la relation physique entre le visiteur et le prisonnier. Les visites ont lieu dans une chambre close de 7 ou 8 mètres carrés. Le prisonnier est menotté et séparé du visiteur par une vitre incassable bordé de grillages et d'acier. Ce que les visiteurs ne voient pas, c'est le spectacle horrifiant qui se produit avant la visite. Une fouille de chaque orifice du corps. Une fois que le prisonnier est nu, le gardien aboie une litanie familière.
Ouvre la bouche. Sors ta langue. Tu portes un dentier? Laisse-moi voir les deux côtés de tes mains. Remonte ton prépuce. Soulève ta bourse. Retourne-toi. Penche-toi en avant. Écarte les fesses. Le dessous des pieds. Rhabille-toi.
Plusieurs prisonniers ont protesté auprès des autorités de la prison en disant que de telles fouilles sont absurdes. Ça n'a pas de sens de fouiller des orifices corporels avant et après des visites sans contact physique. Soit on autorise les contacts physiques, soit on arrête la fouille au corps. Mais les autorités répondent à cette revendication comme elles répondent aux demandes répétées de machines à écrire, par un refus pour raison de sécurité. Pour le visiteur aussi, de telles visites sont profondément bouleversantes. Dans le fameux arrêt Rehm contre Malcolm, qui traite des conditions de détention dans les prisons de l'État de New York, le juge Lasker a cité le témoignage expert de feu Karl Menninger, psychiatre, qui décrivait les visites sans contact physique comme le détail le plus désagréable et le plus perturbant de toute la prison. Une pratique qui constitue une violation des principes ordinaires de l'humanité. Le docteur Menninger affirmait qu'il s'agit d'un spectacle tellement douloureux que je ne reste en général qu'une minute ou deux. C'est une chose douloureuse. Je les plains tellement, j'ai tellement honte de moi que je dois quitter la salle. L'effet des visites sans contact est d'affaiblir et au bout du compte de briser les liens familiaux. À travers cette politique efficace et préméditée, l'État refuse à ses condamnés un élément fondamental de leur humanité, celui du contact physique, et érode par là même des liens familiaux déjà rendus ténus par la distance entre le foyer et la prison. Les prisonniers sont donc isolés sur le plan psychologique tout autant que sur le plan spatial ou temporel. Du fait de l'État, ils deviennent des morts pour leurs êtres chers, et donc des morts vis-à-vis d'eux-mêmes. Car qu'est-ce qu'une personne, sinon la somme de ses relations avec les autres ? Jetés par décret judiciaire dans cet enfer de désespoir, séparés de force de leurs connaissances, défaits par la double honte de leurs conditions et des circonstances du crime qui les ont amenés à la porte de la mort, quelques-uns succombent à la tentation douteuse du suicide. D'autres livrent des batailles dignes de Sisyphe pour prouver leur innocence et pour casser des condamnations injustes. D'autres encore vivent comme on les traite. Ils sont l'ombre d'eux-mêmes, un mime de la vie, des enveloppes d'êtres humains. Pour ces hommes et femmes, l'exécution elle-même apparaît comme un fait accompli, une pure formalité déjà réalisée dans leur esprit, à laquelle l'État va mettre un terme en les mettant à mort une seconde fois. La politique et la justice de la mort. Bien qu'il soit juste de dire que beaucoup de gens, en prison et de façon générale, sont parfaitement ignorants du fonctionnement de la Cour suprême des États-Unis, certains prisonniers du couloir de la mort observent la Cour avec une attention aiguë. Pour eux, la démission soudaine du juge William J. Brennan Jr. est une nouvelle traumatisante qui couronne une saison de deuil. La vague de défaites subie récemment par les avocats spécialisés signifie une mort certaine pour ceux qui continuent à solliciter la Cour afin d'obtenir un recours. En matière de peine capitale, le droit dépend de la politique. Les conservateurs ont gagné les batailles sociopolitiques des années 80 sur la base d'un programme qui comprenait un vibrant plaidoyer en faveur de la peine capitale. La vénérable doctrine de Stare Decisis, selon laquelle les juges doivent respecter la jurisprudence établie, a peu de signification dans une arène judiciaire fortement politisée. Les enquêtes statistiques, les études sociologiques, outils autrefois très appréciés pour défier les pratiques de l'État, sont devenus des exercices purement formels. l'arrêt McCleskey contre Kemp, 1987, a levé toute incertitude sur ce point. La majorité des juges de la Cour suprême, représentés par M. Powell, a accepté la validité de l'étude de Baldus, qui présentait des tonnes de données statistiques démontrant irréfutablement les inégalités raciales grossières dans l'application de la peine de mort en Géorgie. Mais elle a cependant refusé d'en accepter les implications. L'opinion de la minorité, exprimée par M. Brennan, a repris en concentré des conclusions de l'étude de Baldus. Les personnes accusées d'avoir tué des Blancs ont 4,3 fois plus de risques de mourir que celles accusées d'avoir tué un Noir. Ce qui signifie que pour 11 personnes accusées du meurtre d'un Blanc, 6 n'auraient pas été condamnées à mort si la victime avait été noire. L'étude montrait donc que le facteur racial a de fortes chances de jouer un rôle de premier plan pour déterminer si un accusé doit vivre ou mourir. La majorité, en contournant la conclusion qu'elle pouvait difficilement nier, à savoir que la race de la victime est un facteur déterminant pour décider s'il aura la vie sauve ou non, prouvait la pertinence de la constatation astucieuse de Mr. Dooley, ce personnage satirique du début du siècle. Que la Constitution suive le drapeau ou pas, la Cour suprême suit les résultats des élections. La démonstration de l'arrêt McCleskey, fondée sur des données statistiques et des analyses à régression multiples, et soutenue par notre incompréhension de l'histoire et de l'expérience humaine, n'a pas été infirmée par la Cour suprême. Elle a été rejetée par crainte. En refusant la conclusion selon laquelle les faits indiquaient une discrimination anticonstitutionnelle, Mr. Powell notait avec inquiétude que la thèse de McCleskey, si on en tirait toutes les conclusions logiques, mettrait sérieusement en question les principes qui sous-tendent notre système de justice criminelle. Précisément. Et c'est parce que McCleskey a osé mettre en cause la justice fondamentale du système tout entier que ces démonstrations ont été rejetées. En 1974, Delbert Tibbs, étudiant en théologie africain-américain, s'est retrouvé parmi les prisonniers du couloir de la mort de Floride. Condamné pour viol et meurtre par un jury à 100% blanc, il a passé 3 années épouvantables dans l'ombre de la mort avant d'obtenir en appel la cassation de son jugement. En parlant de son jury, il a fait les remarques suivantes. Père, 2 points, quelqu'un de rang égal, 1 parmi des égaux. Je connaissais la définition de ce mot, mais il n'y avait rien de ce genre entre moi et les 7 hommes blancs et les 5 femmes blanches au regard glacial qui formaient le jury de mes pères. Je savais que toute parité qui pouvait exister entre eux m'excluait totalement, du moins à leurs yeux. Des pères, en effet. Je suis sûr qu'à leurs yeux, je n'étais pas seulement un autre être humain. Oh non, j'étais dangereux. Parce que plus bronzé de peau, je n'étais pas des leurs. À propos de l'arrêt McCleskey, Tibbs a noté « Apparemment, le juge de la Cour suprême qui s'exprimait au nom de la majorité pense que les États-Unis ne constituent pas 2 sociétés séparées, l'une blanche et l'autre noire, et très inégales. La justice n'est pas distribuée sans tenir compte de la race, du sexe, du statut économique, des conditions antérieures de servitude. Le juge parlait comme s'il n'y avait jamais eu de guerre de sécession ou d'esclavage. Il a parlé comme s'il n'y avait eu aucune histoire de lynchage, aucun arrêt Dred Scott, aucun Medgar Evers, aucun Little Rock, aucun Birmingham. Dans son Amérique à lui, il ne s'est jamais rien passé à Memphis. Ce qui se passe dans cette Amérique-là, c'est la dévaluation des vies noires et la surévaluation accentuée des vies blanches. Comme le soutient Mr. Brennan dans son éloquente opinion minoritaire, le fait que de telles pratiques soient habituelles ne les rend pas plus constitutionnelles. Pour obtenir justice, il faut constamment lutter, selon ses mots, contre la crainte de trop de justice. Trouvant que cette crainte était bien enracinée chez ses collègues, il a formulé des arguments qui avaient pour but non seulement de contredire des thèses avec lesquelles il était profondément et passionnément en désaccord, mais aussi de retentir comme des avertissements pour l'avenir. Il est tentant de prétendre que les minorités dans le couloir de la mort connaissent un sort qui n'est en aucune façon lié au nôtre, que le traitement qu'on leur inflige ne provoque aucun écho en dehors des chambres où ils meurent. Mais une telle illusion finira par avoir des effets corrosifs, car il n'est pas si facile de limiter les répercussions de l'injustice. La décision de la Cour aujourd'hui ne changera pas ce que les avocats de Géorgie diront à d'autres Warren McCleskey concernant leurs chances d'être exécutés. Rien ne viendra atténuer le rude message qu'ils devront communiquer, ni modifier le fait que le facteur racial continuera d'être un sujet de discussion. Les démonstrations de McCleskey n'auront pas été acceptées judiciairement, mais cela n'affectera pas ce qu'on dira dans le couloir de la mort. Quel que soit le nombre de critiques formulées par rapport à la décision d'aujourd'hui, ces conversations douloureuses seront les opinions dissidentes les plus éloquentes de toutes. Ces opinions dissidentes éloquentes, qui ont cours derrière les barreaux, sont souvent formulées sous forme de paris sur les décisions de la Cour. Mais comme les enjeux de ces résultats sont énormes, il est difficile de formuler des prédictions objectives. En analysant chaque décision à travers le prisme de la politique, je n'ai jamais perdu un pari. Même dans les affaires où un prisonnier, en apprenti avocat, prétendait avoir le droit de son côté. Il n'y a aucune satisfaction dans de telles victoires. Chaque pari gagné est une affaire perdue. Et chaque affaire perdue est un pas de plus vers la mort. Mes prévisions, fondées sur une connaissance des tendances politiques plutôt que sur le droit, m'ont valu l'inimitié des apprentis avocats qui continuent à croire en la jurisprudence et aux principes légaux, en dépit de leur série toujours plus longue de paris perdus. La marche vers la mort, leçon non retenue. Ces temps-ci, il y a une sorte d'accélération dans les couloirs de la mort du pays, une augmentation du rythme de la marche vers la mort. Ce mouvement est stimulé par la politique, car les juges, dans les affaires de peine capitale, subissent une pression croissante pour rendre ce jugement définitif. Au fur et à mesure que le nombre de meurtres augmente dans les villes américaines, augmente aussi la vague de peur. Les politiques et les juges continuent à surfer sur cette vague, qui nous conduit à la porte de la chambre d'exécution. Peu importe que sur les 10 États ayant le taux de meurtres les plus élevés, 8 connaissent aussi le plus grand nombre d'exécutions. Ces exécutions qui ont un prétendu effet dissuasif. Peu importe que parmi les 10 États ayant les taux de meurtre les plus bas, un seul, l'Utah, a procédé à des exécutions depuis 1976. Peu importe que l'efficacité de la peine de mort ne fasse jamais l'objet de débats. Peu importe que plus personne ne formule d'arguments sérieux en faveur de la thèse selon laquelle la peine de mort permet aux citoyens de vivre plus en sécurité. Le principe d'habeas corpus, fondamental dans le droit anglais depuis le règne du roi Charles, est tout aussi fondamental dans le droit américain depuis la ratification de la Constitution, risque d'être vidé de sa substance par la main du président de la Cour suprême. Beaucoup de condamnés, dont les jugements sont bourrés d'erreurs constitutionnelles, seront bientôt exécutés sans qu'il y ait eu révision de leur procès. Situation impensable il y a quelques années encore. Des États qui n'ont pas exécuté depuis une génération préparent leur machinerie de mort. Les générateurs grincent, les poisons sont concoctés, les gaz sont mesurés, les chambres silencieuses attendent l'ordre d'anéantir des vies. Les États du Nord sont de plus en plus nombreux à rejoindre la meute. Pressés de communier à nouveau avec l'héritage judiciaire d'avant l'arrêt Furman, selon lequel la sentence de mort dans des affaires examinées par la Cour suprême constituerait une punition cruelle et inhabituelle, donc anticonstitutionnelle, en violation des amendements 4 et 8 de la Constitution. Vous avez dit dissuasion ? L'exécution en mars 1988 de Willie Darden en Floride, pour laquelle beaucoup de publicité a été faite ici et à l'étranger, aurait dû avoir un effet dissuasif énorme selon les théories en vigueur. Mais moins de 11 heures après que les 2000 vols eurent traversé le corps enchaîné de Darden, un agent de l'administration pénitentiaire de Floride, bien placé pour apprendre la leçon de ce rite étatique, pris d'une crise de folie, a tué un homme dans le service maternité d'un hôpital. Voilà, à mon avis, une leçon bien apprise.